VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h à Abidjan, Côte d'Ivoire, 13h à Bujumbura, au Burundi. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Quelques 22 000 candidats seront en lice lors des élections municipales et régionales du 13 octobre, dont la campagne commence aujourd'hui. Mais derrière ce scrutin local, c'est la présidentielle de 2020. Déjà dans toutes les têtes qui se dessinent, le scrutin doit aboutir à l'élection de 197 maires et 31 présidents de conseils régionaux. Mais le paysage politique ivoirien s'est transformé. En quelques mois, la coalition au pouvoir derrière le président Alassane Ouattara, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a explosé en raison des multiples ambitions présidentielles. Le PDCI a refusé de se maintenir dans le RHDP, estimant que le Rassemblement des Républicains RDR de Ouattara, le parti de Ouattara, tentait en fait de l'assimiler pour pouvoir présenter un candidat à lui à la présidentielle. Le PDCI, qui a soutenu Ouattara en 2010 et 2015, entendait que le parti de Ouattara lui rende l'appareil en 2020, en soutenant un candidat PDCI. En République démocratique du Congo, un meeting des principaux partis d'opposition prévu demain samedi, près du siège du Parlement national, a été autorisé. Une décision qui intervient à moins de 3 mois des élections. Abdourahmane Dia.
L'opposition, qui est engagée dans un processus de désignation d'un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre, avait informé le gouverneur de Kinshasa de la tenue le 29 septembre d'une réunion publique. André Kimbuta a donc répondu favorablement, demandant toutefois à l'opposition de veiller au strict respect des dispositions de la loi régissant les manifestations et réunions publiques. La campagne électorale doit s'ouvrir le 22 novembre, même si des contestations persistent autour de la procédure de vote, notamment sur l'utilisation d'une machine à voter et le fichier électoral. D'ailleurs, dans la journée d'hier, une vingtaine de jeunes du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été interpellés alors qu'ils manifestaient devant le siège du gouvernement contre la machine à voter que la commission électorale compte utiliser lors des élections de décembre. Lors de son discours à la 73e Assemblée générale de l'ONU à New York, le président Joseph Kabila, qui ne va pas se représenter, a réitéré l'organisation d'élections sans l'appui financier de la communauté internationale, ainsi que le respect de la loi électorale.
La médiation pour une paix en Centrafrique relève de l'Union africaine, a déclaré hier le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, estimant que l'implication récente de la Russie dans des pourparlers avec des groupes armés n'avait qu'un but de facilitation. Lors d'une réunion tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, à laquelle n'assistait pas la Russie, un appui fort a été donné à l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA, qui fédère toutes les initiatives et qui a le soutien du gouvernement et du peuple centrafricain, a dit à la presse le chef de l'État centrafricain après la rencontre. Au Tchad, 3 semaines après la rentrée académique, les étudiants renouent avec la grève. Ils ont suspendu les cours pour revendiquer de meilleures conditions d'études. Les employés du Centre national des œuvres universitaires menacent aussi d'aller en grève pour exiger le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire. Le point avec André Kodmajiga, notre correspondant. Au Tchad.
Supprimé en 2016 pour une période de 18 mois pour être injecté dans les œuvres universitaires selon les autorités en charge de l'enseignement supérieur, la bourse d'études des étudiants internes et les primes de recherche ont toujours été à l'origine des débrayages des étudiants et professeurs, occasionnant ainsi l'élaticité de l'année académique. 2 ans après cette promesse, les jeunes Tchadiens qui aspirent poursuivre leurs études supérieures et étudient dans des conditions très difficiles décident après 72 heures de préavis de grève de passer à une vitesse supérieure. Frédéric Raïkna Bialoum est le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens.
Les universités sur le plan national fonctionnent sans restaurant, sans bus et les bibliothèques, les laboratoires, rien ne fonctionne sur le plan national. Depuis la reprise des cours, on constate qu'il n'y a que 2 ou 3 bus qui circulent, alors que sur le plan national, nous avons au moins une trentaine de bus et surtout l'université N'Djamena a 22 bus. Mais jusqu'à là, il y a seulement que 4 ou 5 bus qui circulent à N'Djamena. Nous réclamons aussi la bourse d'équipement de l'année 2015-2016 que jusqu'à là reste sans payer. Maintenant, les étudiants sont sur la route, c'est pour dire que les cours sont suspendus.
Les employés du Centre national des œuvres universitaires accusent 4 mois d'arriérés de salaire. Ils menacent eux aussi d'observer un arrêt de travail à partir de lundi prochain pour exiger le paiement de l'heure due. Pour Djamadjibé Ngaressom, porte-parole des agents contractuels du CENU, la situation est intenable.
Jusqu'au lundi, si rien ne se fait, nous entrons dans une grève illimitée. Le chauffeur qui transporte les étudiants, là, ça fait 4 mois qu'il n'a pas touché son salaire. Beaucoup de nos collègues sont renvoyés des maisons, certains n'ont même pas de carburant pour sortir. Il y a beaucoup de difficultés. Et ce qui est aberrant, les gens qui sont en grève, on les paye normalement moins leur salaire. Alors que nous, pendant le temps de grève, on a travaillé normalement. Cette fois-ci, on est dépassé.
Le directeur général du Centre national des œuvres universitaires rassure les étudiants et le personnel de son institution que les démarches sont en cours pour décanter la situation. Hamid Haroun les invite à une prise de conscience.
Les étudiants ont certes déposé un préavis de grève et on a pu quand même mettre les bus en marche. Et au fur et à mesure, les restaurations aussi, les prestataires vont préparer à manger pour les étudiants. N'oubliez pas que c'est 41 000 étudiants qui doivent se restaurer des repas par jour. Et on a 27 sites de restauration. Le chef d'État a instruit qu'on doit mettre l'électricité et l'eau au campus de Toukra. Et après, on fera le reste. Donc on attend.
Ces étudiants dénoncent également le taux d'inscription qui passe de 28 000 à 50 000 francs CFA pour les nouveaux et 1 000 francs à 28 000 francs CFA pour les anciens. Ils disent ne pas comprendre que le gouvernement supprime la bourse et augmente les droits universitaires. André Kodumadjingar Ndjamena, VO Afrique.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé aujourd'hui de prolonger d'un an le mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, alors que Bujumbura avait menacé de quitter cette instance. Une résolution en ce sens proposée par l'Union européenne a été adoptée par le Conseil par 23 voix sur les 47 États siégeant actuellement au Conseil. 7 pays ont voté contre et 17 autres se sont abstenus. La résolution condamne avec la plus grande fermeté tous les actes de violence commis au Burundi dit par l'ensemble des partis ou des individus et décide de proroger le mandat de la commission afin qu'elle puisse approfondir ses investigations.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Jean-Roger Billon à ce micro en direct des studios de la rédaction de VOA Afrique. La candidature à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh doit être soumise aujourd'hui à un vote préliminaire au Sénat américain au lendemain des auditions de son accusatrice sur à 100% d'avoir été agressée dans sa jeunesse et du magistrat qui a à nouveau acclamé son innocence. Nous allons voter en matinée et aller de l'avant à confier à des journalistes le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell. Plusieurs sénateurs ont fait part de leur indécision dans cette affaire après les auditions de jeudi. Les démocrates ont de leur côté regretté à plusieurs reprises que le FBI n'ait pas pu mener l'enquête sur les accusations de Mme Blasey Ford. La coalition intervenant au Yémen sous commandement saoudien a renouvelé aujourd'hui ses critiques contre des enquêteurs de l'ONU qu'elle accuse de parti pris et laisser entendre qu'elle était hostile au renouvellement de leur mandat. La décision doit être prise sous peu par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. La coalition qui combat les rebelles houthis au Yémen a critiqué le rapport publié à la fin du mois d'août par la mission d'experts mandatée par l'ONU qui avait dénoncé de possibles crimes de guerre commis par toutes les parties. La campagne pour les élections législatives en Afghanistan, longtemps retardée, s'ouvre aujourd'hui dans un climat de crainte et de doute face aux risques de violence et aux multiples allégations de fraude. Plus de 2500 candidats sont en lice pour le scrutin du 20 octobre, au cours duquel la chambre basse du Parlement afghan sera entièrement renouvelée. Le vote, qui intervient avec 3 années de retard, est également perçu comme une répétition générale avant l'élection présidentielle prévue elle-même en avril prochain. Il survient en outre un mois avant une importante conférence de l'ONU à Genève, à laquelle la communauté internationale espère convaincre les pays donateurs des progrès qu'elle a obtenus en Afghanistan. Des conférences de donateurs en 2012 à Tokyo, puis en 2016 à Bruxelles, avaient donné lieu au déblocage de 16 puis 15 milliards de dollars. La presse turque fulminait ce vendredi, nous parlons sport donc et football. La presse était en colère contre l'UEFA, la presse turque, et son chef Alexander Seferin au lendemain de l'attribution de l'Euro 2024 à l'Allemagne aux dépens de la Turquie, un choix qualifié de coup de poignard dans le dos par un journal. Peu avant le mondial, une polémique avait éclaté en Allemagne après la publication d'une photo des internationaux allemands Mesut Özil et son équipier Ilkay Gundogan, tous deux d'origine turque, avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux joueurs ont été critiqués et Özil Brazil a annoncé cet été qu'il quittait la Mannschaft, s'estimant victime de racisme et d'un manque de respect. Les attaques les plus virulentes contre l'UEFA et contre M. Kafferin ont été publiées par les journaux du groupe Demiroren, propriété de Yildirim Demiroren, le patron de la Fédération turque de football. Et ce sera tout pour ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Marie-France.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.